Ne t'écroule pas, Anna. Reste debout. Reste debout. Quelques heures plus tôt, ce même jour, dans un quartier populaire de Los Angeles, une jeune femme, Anna Borowski, remontait la rue en trottinant. À la voir courir, abritée sous l'épaisse capuche de son pull molletonné, on aurait pu croire qu'elle se maintenait en forme par un footing matinal. Mais Anna ne faisait pas son jogging. Elle faisait les poubelles. Un an plus tôt pourtant, elle avait une vie agréable, dînait régulièrement au restaurant et n'hésitait pas à claquer plus de 1000 dollars lors de séquences shopping avec ses copines. Mais la crise économique avait tout bouleversé. Du jour au lendemain, la firme qui l'employait avait réduit drastiquement ses effectifs et supprimé son poste de contrôleur de gestion. Pendant quelques mois, elle avait voulu croire qu'elle traversait seulement une mauvaise passe et ne s'était pas découragée. Prête à accepter n'importe quel poste correspondant à son profil, elle avait passé ses journées sur les sites internet d'embauche, inondant les entreprises de CV et de lettres de motivation, participant à des forums pour l'emploi, dépensant même de l'argent en consultant un cabinet de coaching de carrière. Hélas, toutes ces tentatives s'étaient soldées par des échecs. En 6 mois, elle n'avait pas réussi à décrocher le moindre entretien un peu sérieux. Pour survivre, elle s'était résignée à faire des heures de ménage chaque jour dans une maison de retraite de Montebello. Mais ce n'était pas les quelques dollars glanés par ce job qui parvenaient à payer son loyer. Anna ralentit sa course en arrivant sur Purple Street. Il n'était pas encore 7 heures du matin. La rue restait relativement calme, même si elle commençait à s'animer. Elle attendit malgré tout que le school bus ait quitté l'artère pour plonger la tête dans la poubelle. L'habitude venant, elle avait appris à laisser de côté son orgueil et sa fierté lorsqu'elle se lançait dans ce genre d'expédition. De toute façon, elle n'avait pas vraiment le choix. La faute à un tempérament plus cigale que fourmi et à quelques dettes qui semblaient légères du temps où elle gagnait 35 000 dollars par an, mais qui à présent l'étranglaient et menaçaient de lui faire perdre son toit. Les premiers temps, elle s'était contentée d'aller fouiller dans les conteneurs du supermarché en bas de chez elle pour récupérer les aliments ayant dépassé la date de péremption. Mais elle était loin d'être la seule à avoir eu cette idée. Chaque soir, une foule toujours plus nombreuse de SDF, de travailleurs précaires, d'étudiants et de retraités désargentés se pressaient autour des caisses métalliques, si bien que la direction du magasin avait fini par asperger les aliments de détergent pour éviter toute récupération. Anna s'était alors décidée à pousser ses explorations en dehors de son quartier. Au début, elle avait vécu cette expérience comme un traumatisme, mais l'être humain, décidément, était un animal qui s'habituait à toutes les humiliations. La première poubelle était pleine à ras-bord, et son exploration ne fut pas vaine. Une boîte de nuggets de poulet à moitié entamée, un gobelet Starbucks avec un gros reste de café noir, un autre de cappuccino. Dans la deuxième, elle trouva une chemise Abercrombie déchirée qu'elle pourrait laver et repriser et, dans la troisième, un roman quasi neuf à la belle couverture en simili-cuir. Elle mit ses pauvres trésors dans son sac à dos et continua sa tournée. Anna Borowski rentra chez elle une demi-heure plus tard, dans le petit appartement d'un immeuble récent et bien tenu dont le mobilier était réduit à son strict nécessaire. Elle se lava les mains, puis versa le café et le cappuccino dans un mug qu'elle fit réchauffer au micro-ondes en même temps que les nuggets. En attendant que son petit déjeuner soit prêt, elle étala sa moisson du jour sur la table de la cuisine. L'élégante couverture gothique du roman attira particulièrement son attention. Un sticker collé dans le coin gauche prévenait le lecteur. Par l'auteur de la Compagnie des Anges. Tom Boyd ? Elle avait entendu parler de lui par des filles du bureau qui adoraient ses bouquins, mais elle ne l'avait jamais lu. Elle essuya une tache de milkshake sur la couverture tout en pensant qu'elle pourrait en tirer un bon prix, puis se connecta à Internet en piratant une nouvelle fois la Wi-Fi de sa voisine. 9. Le livre était à 17 dollars sur Amazon. Elle cliqua sur son compte eBay et tenta un coup. Une mise en vente à 14 dollars en cas d'achat immédiat. Puis elle lava la chemise, prit une douche pour se décaper et s'habilla en s'attardant devant son miroir. Elle venait d'avoir 37 ans. Elle qui, pendant des années, avait fait plus jeune que son âge, avait vieilli d'un seul coup, comme si un vampire avait sucé toute sa fraîcheur. Depuis sa perte d'emploi, à force de ne bouffer que des saloperies, elle avait pris une dizaine de kilos, tout dans les fesses et sur le visage, ce qui lui donnait l'air d'un hamster géant. Elle essaya de sourire, mais trouva le résultat pitoyable. Elle était à la dérive, et son naufrage pouvait se lire sur sa vilaine face. « Grouille-toi, tu vas être en retard !» Elle enfila un jean clair, un sweat-shirt à capuche et une paire de baskets. « C'est bon, tu ne vas pas en boîte ? Pas la peine de se mettre sur son 31 pour essuyer la merde des petits vieux. » Elle s'en voulut immédiatement de son cynisme. Elle se sentait tellement désemparée. À quoi se raccrocher dans les moments les plus sombres ? Elle n'avait personne pour l'aider, personne à qui confier son désarroi. Pas de vrais amis, pas d'hommes dans sa vie. Le dernier en date remontait à plusieurs mois. Sa famille ? De peur de perdre la face, elle n'avait parlé de ses déconvenues ni à son père, ni à sa mère. Et on ne peut pas dire que ces derniers se pressaient pour prendre de ses nouvelles. Certains jours, elle regrettait presque de ne pas être restée à Détroit comme sa sœur, qui habitait encore à 5 minutes de chez leurs parents. Lucie n'avait jamais eu la moindre ambition. Elle avait épousé un gros plouc, représentant en assurance, et avait un marmot insupportable. Mais elle au moins n'avait pas à se demander tous les jours comment elle allait pouvoir se nourrir. Alors qu'elle ouvrait la porte, Anna eut un moment d'abattement. Comme tout le monde, elle prenait des médicaments, des antidouleurs pour ne pas souffrir du dos et de l'ibuprofène flash qu'elle avalait comme des bonbons pour chasser une migraine chronique. Mais aujourd'hui, elle aurait eu besoin d'un puissant calmant. Plus les semaines passaient, plus elle était sujette à des crises d'angoisse, vivant continuellement dans la peur avec cette impression chevillée au corps que, quels que soient ses efforts et sa bonne volonté, elle ne maîtrisait plus rien de sa vie. Parfois, la précarité lui montait à la tête, et elle se sentait capable d'un coup de folie, comme cet ancien cadre de la finance qui, 9 mois plus tôt, à quelques rues d'ici, avait abattu 5 membres de sa famille avant de retourner l'arme contre lui. Il avait laissé une lettre à la police expliquant son geste par sa situation économique désespérée. Sans emploi depuis plusieurs mois, il venait de perdre l'ensemble de son épargne suite à la chute de la bourse. « Ne t'écroule pas, Anna. Reste debout, reste debout. » Elle lutta pour se ressaisir. Surtout, ne pas se donner le droit de chuter. Si elle baissait les bras, elle sombrerait, elle le savait. Il fallait qu'elle se batte de toutes ses forces pour garder son appartement. Parfois, elle avait l'impression d'être réduite à l'état d'un animal dans son terrier, mais ici au moins, elle pouvait se doucher et dormir en sécurité. Elle mit le casque de son iPod sur ses oreilles, descendit les escaliers, prit le bus pour se rendre à la maison de retraite. Elle fit le ménage pendant 3 heures et profita de sa pause déjeuner pour consulter Internet dans un poste en libre-service de la salle de repos de l'hospice. Bonne nouvelle, le livre qu'elle avait mis en vente avait trouvé preneur au prix indiqué. Anna travailla encore jusqu'à 15 heures, puis passa au bureau de poste pour envoyer le roman à son expéditeur, Bonnie Delamico, campus de Berkeley, Californie. Elle glissa le roman dans l'enveloppe sans remarquer que celui-ci avait plus de la moitié de ses pages vierges.
Hey « Eh les mecs, grouillez-vous un peu !»
La radio crachota ce rappel à l'ordre à tous les conducteurs de la flotte des 8 semi-remorques qui traversaient la zone industrielle de Brooklyn. Comme pour un transport de fonds, la durée et le trajet entre le dépôt du New Jersey et l'entreprise de recyclage près de Coney Island étaient strictement réglementés afin d'éviter le vol de marchandises. Chargé de 30 palettes, chaque camion transportait à lui seul 13 000 livres emballés dans des cartons. Il était près de 22 heures lorsque la gigantesque cargaison franchit sous la pluie les portes de la station de pilonnage installée sur un immense terrain entouré de grillages qui faisait penser à un camp militaire. À tour de rôle, chaque camion déchargea sa livraison sur le sol goudronné du vaste entrepôt. Des tonnes de livres encore emballés sous leur film plastique. Accompagné d'un huissier, un représentant de la maison d'édition supervisait cette opération. Ce n'était pas tous les jours qu'on mettait 100 000 exemplaires au pilon pour défaut de fabrication. Afin de prévenir toute fraude, les deux hommes contrôlèrent scrupuleusement la cargaison. À chaque déchargement, l'officier de justice sortait un livre d'un carton pour constater la malfaçon de l'impression. Tous les exemplaires avaient la même lacune. Sur les 500 pages que comptait le roman, seule la moitié était imprimée. L'histoire s'arrêtait brutalement au milieu de la page 266 sur une phrase elle-même inachevée. Un balai de 3 bulldozers se déploya autour de cette marée de livres, comme s'il s'agissait de vulgaires gravats pour les pousser sur des tapis roulants qui montaient à grande vitesse vers les gueules béantes des monstres de ferraille. Le pilonnage industriel pouvait commencer. Les deux broyeuses avalèrent goulûment ces dizaines de milliers de livres. Avec violence, l'ogre mécanique déchiquetait et mastiquait les ouvrages. Tout autour, dans la poussière de papier, s'échappaient des pages déchirées. Une fois la digestion terminée, un amas de livres éventrés, épluchés, lacérés, sortit des entrailles de la bête, avant d'être compacté par une presse qui excréta en bout de course de gros ballots de forme cubique entourés de fils de fer. Puis on entassa les cubes compressés au fond du hangar. Le lendemain, ils seraient à leur tour chargés sur d'autres camions, recyclés en pâte à papier avant de se réincarner en journaux, en magazines, en mouchoirs jetables ou en carton à chaussures. En quelques heures, l'affaire fut pliée. Une fois l'intégralité du stock détruite, le responsable de l'usine, l'éditeur et l'huissier signèrent le document qui consignait méthodiquement le nombre d'ouvrages pilonnés lors de chaque opération. Le montant total se montait à 99 999 exemplaires.